There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hello, comment ça va? Aujourd'hui, avant-dernier épisode de l'année, c'est un dernier épisode qui va sortir le 16 décembre, mais aujourd'hui, j'avais envie d'un peu changer, on va dire, et de vous parler d'une expérience qui m'a beaucoup parlé pendant ma guérison, et c'est là où j'ai compris en fait l'importance de guérir dans un premier temps, mais aussi de manger. Donc, avant de parler de cette expérience, je pense que vous vous en doutez, si vous ne la connaissez pas encore, franchement, elle est passionnante. Pour le coup, j'ai noté beaucoup de choses dessus. J'ai lu énormément, j'ai lu des livres. Enfin bref, je trouve ça vraiment passionnant. Elle ne peut pas être reproduite dans notre époque actuelle parce que ce ne serait pas considéré comme éthique. Mais bon, je vais vous en parler aujourd'hui. Avant de commencer, n'hésitez pas à noter le podcast sur Apple Podcast et sur Spotify, à me suivre sur Instagram, @o.fourneau. Et puis, à me laisser un petit commentaire ou même un petit message sur Insta, je réponds à tout. Merci encore pour tous vos messages et tous vos retours. Franchement, ça fait trop du bien de voir que ça touche des gens et que je continue à parler de mon expérience. Donc voilà, et d'ailleurs, je réponds à toutes vos questions dans le prochain épisode, une petite FAQ fin d'année. Et voilà, bon, sans plus tarder, on commence. Donc l'expérience que je voulais vous parler, c'est l'expérience de Minnesota. L'expérience de Minnesota, c'est une expérience assez connue qui a été faite dans un but de voir quels étaient les effets de la famine durant la guerre. Donc ça a commencé en 1944 en fait, et c'était un scientifique, Ansel Keys, qui a étudié la famine sur des hommes volontaires qui étaient tous en très bonne santé. Et il y a eu plusieurs phases, en fait, pendant cette expérience. Donc, je vais commencer par décrire un peu l'expérience et ensuite donner mon ressenti par rapport à ça. Il y a eu plusieurs phases. Donc, la première phase, c'était durant 3 mois, les hommes mangeaient approximativement, enfin, ils mangeaient normalement, en fait, selon leurs besoins. Avant de commencer aussi, je tiens à préciser que je vais énoncer des calories. Donc, je mets un peu un trigger warning au niveau des calories. Mais je pense que c'est important, donc si jamais il y a des personnes qui sont un peu trigger par les chiffres, je vous invite à quitter l'épisode pour le coup, parce que ça peut être sensible, mais moi ça m'a beaucoup parlé parce que je me suis rendu compte que, enfin je ne compte pas les calories, et je comptais les calories à l'époque, je ne compte plus les calories, Dieu soit loué, mais en fait c'est une métrique qui dans cette expérience sert beaucoup pour montrer justement ce ressenti par rapport au corps. Le corps est vraiment bien fait. Donc pendant les 3 mois, les 3 premiers mois, ils mangeaient approximativement 3200 à 3500 calories. Donc, attention, je mets un petit propos à propos de ça, c'est que c'est totalement normal pour des hommes en très bonne santé, surtout que ça devait être des hommes assez jeunes, donc c'est totalement normal. Ensuite, il y a eu une période de 6 mois de restriction, où là, les participants devaient ne manger maximum 1500 calories. Alors, mon avis dessus, on a vu, il y en a de moins en moins, ça fait du bien, on a vu des régimes qui prônaient le fait de ne manger 1200 à 1500 calories, c'est de la pure connerie. Il faut savoir qu'un enfant de 7 ans mange au minimum 1800 calories. Enfin, c'est ridicule, le corps ne peut pas fonctionner, le corps a besoin de calories même au repos, je le rappelle. C'est-à-dire qu'on est allongé durant une journée, on consomme des calories, ne serait-ce que pour faire fonctionner ton cœur, tes organes, etc., etc. Donc ça a duré 6 mois, cette période de restriction. 6 mois, vous vous rendez compte? 6 mois, c'est énorme. C'est vraiment, je me rends compte maintenant, 6 mois, c'est waouh. 6 mois à ne pas manger au final. Ensuite, il y a eu une période de renutrition mesurée, où pendant 3 mois, les hommes mangeaient de 2000 à 3000 calories. Pourquoi mesurer? Parce que, et ça fait écho à ce que je vais dire après, pendant une période de déficit calorique intense, donc pendant une période par exemple d'anorexie mentale, une maladie, il y a ce qu'on appelle potentiellement ce qui peut se passer, c'est le syndrome de renutrition. Et le syndrome de renutrition, il peut être très dangereux pour les personnes qui l'expérimentent, c'est-à-dire que le corps ne va pas, enfin, ne peut mal réagir en fait à un surplus de quantité de nourriture. Ce qui fait que ça peut engendrer des problèmes au niveau physique, des problèmes au niveau physiologique. Donc souvent, quand l'anorexie mentale est trop sévère, on va essayer de faire en sorte que la période de renutrition se passe mieux. Donc, elle a duré 3 mois. Ensuite, il y a eu une renutrition non contrôlée, où là, une fois la période un peu renutrition est passée, les hommes de l'expérience manger ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire sans conditions particulières. Alors, ce qui est intéressant, c'est les retours d'expérience. Pendant cette phase, les symptômes physiques, ils avaient des symptômes physiques, c'est-à-dire que pendant les 6 mois de restriction, du coup, ils souffraient d'anémie, donc de carences assez importantes, de déficit neurologique, ils avaient la peau pâle, les ongles qui ne poussaient pas et les cheveux qui cassaient. Ils avaient des problèmes intestinaux et il y avait une diminution de leur pouls, du rythme cardiaque, quoi, qui a diminué de 17%. Alors, ça, tout ce que je viens de dire, je l'ai vécu. C'est-à-dire que je faisais beaucoup de bradycardie, donc surtout par rapport... Et ouais, enfin, la bradycardie, en fait, c'est quand on pour ralentit. Moi, je sais que j'avais ça et je pensais que c'était lié au sport, mais en fait, non, pas du tout. Ça, bien sûr, c'est lié au sport quand t'as un cœur de sportif ou quoi, mais ce n'était pas dû à ça. J'étais carencé de partout, j'avais des troubles de l'attention, j'avais la peau pâle, les ongles, à l'eau, où étaient-ils? Mes cheveux, oh, j'arrêtais pas de perdre mes cheveux, et je pensais que c'était dû à l'âge, mais à l'aide, j'avais 22 ans. Enfin, bref, et... après, les symptômes mentaux qu'ils décrivaient, c'était qu'ils avaient, ils trouvaient du plaisir à regarder les autres manger, mais pas eux. Donc, moi, je regardais des Wataïts, ou alors je regardais les gens autour de moi qui mangeaient, et moi, je les enviais, et moi, je mangeais pas. Et chose marquante aussi dans l'expérience, c'est que certains étaient devenus possessifs vis-à-vis de la nourriture, et ils étaient inquiets quand on prenait dans leur assiette. Et moi, je sais que ça me le faisait beaucoup, c'est-à-dire que si j'avais quelque chose dans mon assiette, c'était à moi. Je ne devais pas partager. Alors que maintenant, je raffole des restaurants tapas. Je préfère d'ailleurs faire des restaurants où je partage tout que avoir un peu le classique entrée plat dessert, tu vois. Mais il y a vraiment ce truc de possessif. Moi, je me rappelle que mes placards étaient remplis de nourriture, mais je ne les touchais pas. Mais juste, ils étaient là, en mode stock, tu vois. Et je prenais pas de plaisir, quoi. Après, ils avaient des comportements compensatoires, donc les chewing-gums. Et fait intéressant, moi, je consommais des chewing-gums, mais pas autant. Et là, en fait, dans l'expérience, il y en a, ils mâchaient tellement de chewing-gums les chercheurs ont dû les limiter parce que ils mâchaient tellement de chewing-gums dans la journée que leur mâchoire devenait douloureuse, vous vous rendez compte? Parce que, évidemment, les chewing-gums, c'est rempli d'air. Donc, ça enlève la sensation de faim et de satiété d'ailleurs. Et après, il y en a d'autres qui ont développé des mauvaises habitudes comme le tabagisme, et la caféine. Moi, je sais que je consommais énormément de café pour me remplir, et le café, ça stimule et ça coupe un peu cette sensation de faim. Alors maintenant, je prends un café, j'ai faim direct. Mais voilà. Donc en fait, les conséquences que je veux parler, c'est que, bon, bien sûr, je passe l'étape de développer des troubles obsessionnels compulsifs autour de la nourriture, couper la nourriture en petits morceaux, en prenant des petites assiettes pour faire croire qu'on a des grosses portions, etc., etc., mettre énormément d'épices. Je sais que je le faisais beaucoup, enfin, j'en mets toujours beaucoup, mais je veux dire, je mélangeais des trucs qui n'avaient rien à voir ensemble pour essayer d'améliorer un peu les légumes à l'eau que je cuisinais. Donc bon. En fait, en conclusion, bah, je pense que ça fait sens, restreindre son corps, le corps, et bah après, voilà ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les hommes ont mangé, et attention, trigger warning calories, ils mangeaient certains jusqu'à 11 000 calories par jour. Donc en fait, vous voyez la dette que j'arrête pas de parler depuis le temps que je fais ce podcast. Le corps a une dette, en fait. Et c'est comme un prêt à la banque. On doit le rembourser. Et bien sûr, ça ne dure pas éternellement, puisqu'après, tous les hommes ont retrouvé une alimentation, je ne vais pas dire normale, mais une alimentation correcte et un rapport un peu plus sain. Mais il y a une sorte de frénésie alimentaire quand on va manger en quantité excessive. Et ce n'est pas de la boulimie au sens propre du terme. Ce n'est pas... En fait, les gens ont toujours peur de tomber dans un autre trouble du comportement alimentaire. Mais non, en fait, c'est juste le corps qui réclame son dû. Donc, n'aie pas peur. Si tu, à un moment donné, tu vas manger beaucoup et d'énormes quantités, parce que c'est juste ton corps qui réclame ce que tu lui dois, plutôt. Donc... En fait, à la fin, le chercheur, donc Keyes, il a souligné l'importance d'un apport conséquent, vraiment conséquent en calories, pour réparer le corps de cette période de restriction. Et je pense que c'est la phrase que je retiens le plus dans ce podcast, c'est manger. Parce que le corps va être affamé, dénutri, et je pense que c'est hyper important justement de redonner confiance à son corps et de redonner confiance à son cerveau également, pour qu'ensuite la guérison se fasse plus progressivement, on va dire. Mais il y a cette nécessité absolue de faire comprendre au corps qu'il est en sécurité. Du coup, c'est pour ça qu'on passe par des périodes de quantité astronomique de nourriture ingérée. Voilà. J'espère que l'épisode t'a plu. C'est un format que j'essaye un peu, mais il y a beaucoup de recherches comme ça qui m'intéressent beaucoup et... Bah voilà, ce podcast-là, c'est fait pour aider, mais j'aime aussi partager des choses qui m'intéressent et que je lis et je me documente beaucoup. Donc voilà, n'hésite pas à me donner ton retour sur Instagram, @1t1o.fourneau. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.